Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreux 13, 8. Lettre circulaire. Décembre 2008. Je salue cordialement dans le précieux et saint nom de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ tous les frères et sœurs du monde entier, avec ce passage d'Éphésiens chapitre 1 verset 4 à 11. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Par ces paroles, l'apôtre Paul nous a fait ressortir le point central du plan du salut de Dieu. Tous les fils et filles de Dieu ont été prédestinés depuis l'éternité à voir sa gloire. Dans cet exposé, je voudrais mettre l'accent sur le fait que l'Église de Jésus-Christ est actuellement appelée à sortir de toutes les nations. L'introduction dans le plan du salut commence par Abraham, et elle est fondée sur les promesses divines. Nous ferons comme toujours référence aux Écritures liées à chaque sujet afin que tout soit présenté dans l'ordre, et sur le fondement biblique. En ce qui concerne l'élection, dès le commencement, l'Éternel Dieu a fait les déclarations suivantes. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, 3. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla, en disant, « Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Genèse 17, 2 à 4. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Genèse 18, 17 et 19. Dans chacune de ces déclarations, la prophétie montrait déjà Christ, la postérité d'Abraham. Matthieu 1, 1, Galates 3, 16, et également tous ceux qui sont à Christ. Galates 3, 29. Au jour de la Pentecôte, des hommes venant de 17 nations différentes se rassemblèrent pour écouter la première prédication de l'apôtre Pierre. Actes 2, 1 à 12. Dans sa deuxième prédication, l'apôtre Pierre dit, « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Actes 3, 25. L'apôtre Paul l'a aussi confirmé, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Romains 4, 16 et 17. Paul traite encore de ce sujet important dans Galates 3 au verset 8, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi, bien avant que les 12 tribus soient élues par Dieu. Au travers d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en tant que son peuple d'alliance naturelle et, à qui il avait promis et donné un territoire naturel, nous voyons que Dieu avait déjà fait des promesses à l'Église appelée à sortir de toutes les nations, et prédestinée à habiter dans la Nouvelle Jérusalem. Dieu a choisi pour Israël la Jérusalem terrestre et la montagne de Sion. Ésaïe 24, 23. Dans les deux cas, il s'agit de la prédestination, et cela demeure éternellement irrévocable. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, 29 et 30. L'apôtre Jacques exposa d'abord le plan du salut en rapport avec l'Église du Nouveau Testament. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Ensuite en rapport avec Israël, avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines, et je la redresserai. Actes 15, 14 à 17. Paul aussi parla de ce sujet, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Romains 11, 25 à 27. Dieu a choisi le pays d'Israël comme son héritage. Joël 3, 2, et il a destiné le peuple d'Israël à devenir son premier-né. Exode 4, 22 et 23. Depuis le 19e siècle, les Juifs ont commencé à retourner dans leur patrie, comme cela avait été promis par Dieu, car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Ésaïe 14, 1. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion, et de tous les pays où je les avais chassés. Et ils habiteront dans leur pays. Jérémie 23, 8. Les périodes suivantes relatives à un passé récent ont une grande signification pour Israël. 1. 1917-1922. La déclaration Balfour du 2 novembre 1917 amorça l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. 2. 1922-1948. Le gouvernement britannique était responsable de l'administration de cette partie de la Palestine appelée alors la Transjordanie. 3. 1948-1967. Le 14 mai 1948, David Ben-Gourion proclame officiellement la naissance de l'État d'Israël. Le 15 mai, c'est la fin du mandat britannique. 4. De 1967 à ce jour, après la guerre des six jours en juin 1967, le territoire fut de nouveau divisé, il en résulta les frontières actuelles. Que restera-t-il d'Israël si les nations continuent à diviser sa terre? Actuellement, des négociations sur l'avenir d'Israël et sur le statut de Jérusalem ont lieu à tous les niveaux. En mai 2008, conformément à l'accord signé le 30 décembre 1993 entre l'État d'Israël et le Vatican, accord qui consiste en 15 articles ainsi que leurs explications, 9 représentants d'Israël et 9 diplomates de haut rang du Vatican se réunirent pour négocier sur ces questions. Parallèlement à l'appel à sortir et au rassemblement du peuple naturel de Dieu dans le pays naturel qui leur a été promis, l'appel à sortir et le rassemblement de tous ceux qui appartiennent à l'Église de Jésus-Christ, et qui sont dispersés parmi les nations, est en train d'avoir lieu par la parole de la promesse. Dieu a un plan pour Israël et il a un plan pour l'Église. Maintenant, à la fin du temps de la grâce, ceux qui sont de la semence spirituelle d'Abraham croiront le message divin afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates 3, 14. C'est seulement eux qui prêteront l'oreille à l'appel. Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Du milieu de l'Église, sortira l'épouse de l'agneau, c'est la troupe des vainqueurs. Les vierges sages qui sont remplies, et conduites par le Saint-Esprit, et qui sont scellées pour le jour de leur rédemption. Éphésiens 1, 13. Du milieu des 12 tribus d'Israël, Dieu appellera d'abord à sortir les 144 000. Apocalypse 7, qui se rassembleront sur la montagne de Sion. Apocalypse 14, et c'est seulement après cela qu'il se révélera à tout Israël. C'est de là, sur la montagne de Sion, à Jérusalem, que commencera son règne sur toute la terre. Apocalypse 11, 15, et autres. Le message biblique du temps de la fin. La parole de Dieu demeure éternellement. À partir de maintenant, je n'utiliserai plus l'expression « le message du temps de la fin », comme plusieurs le font, mais plutôt « le message biblique du temps de la fin », afin que l'accent soit mis sur le fait que ce message est exclusivement fondé sur la parole de Dieu. On n'insistera jamais assez sur ce qui suit, c'est seulement lorsque Dieu fait une promesse dans sa parole, qu'il veille sur elle afin de l'accomplir en son temps. Lors de la première venue de Christ, plus de 100 prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies. Exactement 24 d'entre elles s'accomplirent dans les dernières 24 heures jusqu'à la crucifixion. Frère Branham en mentionna 17 dans sa prédication Les événements modernes rendus clairs par la prophétie, prêchée le 6 décembre 1965. Nous devons sérieusement réfléchir à ceci. Depuis que les scribes interprétèrent arbitrairement les prophéties bibliques, le peuple passa à côté de leur véritable signification et accomplissement, par conséquent la nation entière ne reconnut pas l'accomplissement de la parole prophétique, et manqua le plus grand jour de la visitation de Dieu. Luc 7, 30, Luc 19, 41 à 44. Les interprétations faites par l'homme sont des séductions de Satan. Cela fut le cas avec Israël et encore aujourd'hui dans l'Église, elles représentent les plus grands obstacles entre Dieu et l'humanité, empêchant les hommes de reconnaître l'accomplissement de la prophétie biblique. L'apôtre Paul résuma pour nous ce qui arriva en ce temps-là, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » 1 Corinthiens 15, 3 et 4. Tout ce que nous prêchons et enseignons doit être trouvé dans les Écritures. Et un témoignage qui s'accorde à l'ensemble des Écritures doit aussi s'y trouver. Chacun de nous doit se soumettre au jugement de la parole de Dieu, en particulier les frères dans le ministère. Il ne suffit pas seulement de se référer à frère Branham et à ses citations sans tenir compte de ce que disent les saintes Écritures, car il est absolument impossible de séparer le message biblique du temps de la fin, de la Bible. Celui qui agit ainsi se trouve sous une malédiction car il prêche un autre évangile, Galates 1, un autre Jésus, et il est sous l'influence d'un autre esprit. 2 Corinthiens 11, 1 à 4. Après sa résurrection, notre Seigneur se révéla lui-même à ses disciples ainsi qu'à ceux qui étaient avec eux. Il plaça une grande importance sur ce qui était écrit, alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit, que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Luc 24, 44 à 46. C'est l'un des passages les plus importants qui témoigne que le Seigneur n'ouvrit l'intelligence, pour la compréhension des Écritures, qu'à ceux qui furent disposés à écouter ce que Dieu avait dit dans celles-ci. Cela est encore valable aujourd'hui. Seulement celui qui croit ce que disent et enseignent les saintes Écritures reçoit du Seigneur ressuscité la compréhension pour voir l'accomplissement de tout ce qu'il a promis. Cela s'applique aussi au ministère de frère Branham comme il en fut jadis du ministère de Jean-Baptiste. Nous savons tous que Jean-Baptiste fut le prophète promis, et le précurseur, selon Ésaïe 40, 3, et Malachie 3, 1. Notre Seigneur l'a confirmé dans Matthieu 11, versets 7 à 15, et dans Marc 1, versets 1 à 3. Au commencement même du Nouveau Testament, nous voyons le ministère de Jean-Baptiste placé dans l'ordre biblique. Que prédisent les saintes Écritures? Au sujet de la dernière période impartie à l'Église? Le temps dans lequel nous vivons maintenant? Que va-t-il arriver maintenant à la fin du jour du salut? 2 Corinthiens 6, 2, Ésaïe 49, 6 à 8. Avant que le jour du Seigneur arrive, ce jour grand et redoutable. 2 Pierre 3, 10, et autres. Nous devons constamment avoir à l'esprit que Dieu n'accomplit que ses promesses. Jamais il n'accomplira nos propres désirs et nos imaginations. Il a promis dans Malachie 4, 5, qu'il enverrait Élie, le prophète, avant que le jour grand et redoutable du Seigneur arrive. Notre Seigneur l'a confirmé dans Matthieu 17 au verset 11, il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir, et rétablir toutes choses. » Nous retrouvons la même confirmation dans Marc 9 au verset 12. Il leur répondit, « Élie viendra premièrement, et rétablira toutes choses. » Par ces déclarations, notre Seigneur mit en évidence la prophétie particulière de Malachie 4 verset 5, qui en ce temps-là, ne s'était pas encore accomplie. Et il se référa également au ministère de Jean-Baptiste qui était déjà accompli. Matthieu 17, 12 et 13. En rapport avec Élie Marc 9 13. C'est tout simplement parfait. Maintenant, il est question du message biblique du temps de la fin qui nous a été apporté par le prophète promis William Branham, message qui nous annonce que l'Église de Christ doit être rétablie dans son état originel et que les cœurs des enfants de Dieu doivent être ramenés à la foi et aux enseignements des pères du commencement. Acte 3, 17 à 21. Dieu accomplit maintenant la promesse faite pour ce temps, car il est écrit, « Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est, le, oui. C'est pourquoi encore, l'amen par lui, est prononcé par nous, à la gloire de Dieu. » 2 Corinthiens 1, 20. Au jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre montra que l'effusion du Saint-Esprit était l'accomplissement de ce que Dieu avait promis par le prophète Joël. Et il ajouta, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Acte 2, 39. Le retour promis de Jésus-Christ. Jean 14, 1 à 3, est imminent, mais avant le retour de l'époux, en allemand bräutigam, le fiancé, futur époux ou futur marié, toutes les promesses, faites à l'épouse, en allemand, braut, la fiancée, future épouse ou futur marié, et qui sont écrites dans la parole de Dieu doivent trouver leur accomplissement. Ce qui suit demeure vrai éternellement, les enfants de la promesse. Romains 9, 8, Galates 4, 28, croient la parole de la promesse. Romains 4, 18 à 25, et reçoivent l'Esprit promis. Éphésiens 1, 13. Selon Hébreux 11, 9, Abraham ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, vinrent s'établir dans la terre promise comme des étrangers. Au temps de Josué, il fut attribué à toutes les tribus une portion de territoire de la terre promise. L'accomplissement d'une promesse est la réalisation de ce que Dieu a promis. Il ne s'agit plus alors d'une théorie mais de la réalité. Les déclarations de frère Branham mal comprises. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. 2 Corinthiens 4, 5. Cette déclaration de l'apôtre Paul est très claire. Nous non plus, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ni un prophète. Dans la lumière de la parole révélée, nous prêchons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout comme les scribes dans le judaïsme, les pères de l'Église païenne aussi comprirent mal certains passages bibliques en les plaçant de manière incorrecte, et en donnant leurs propres interprétations. Le résultat est qu'aujourd'hui on ne retrouve plus rien dans la soi-disant chrétienté qui correspond à l'enseignement original et à la pratique qu'on trouvait dans l'Église primitive. Cet aspect particulier a déjà été exposé de manière exhaustive dans les publications précédentes. La tragédie est que la même chose est arrivée dans ce qui est appelé le message du temps de la fin. Après 2000 ans, Dieu a envoyé dans notre temps un homme pour nous apporter tout le conseil de Dieu. La même mesure dont nous mesurons toutes les églises et églises libres doit être appliquée dans le cercle du message, à chacun de nous personnellement. Lorsque dans la même ville il y a plusieurs groupes qui revendiquent tous croire au ministère de frère Branham, mais qui sont en désaccord les uns avec les autres, et marchent dans différentes directions, il y a clairement quelque chose qui ne va pas. L'apôtre Paul écrivit chacune de ses épîtres à l'attention d'une seule église locale. Les sept messages dans Apocalypse 2 et 3 furent à l'origine adressés à une seule église locale. Même en son temps, l'apôtre Pierre avait déjà relevé le fait qu'il y a dans les Écritures et dans les épîtres de Paul des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. 2 Pierre 3, 16. La même chose est faite actuellement avec les prédications de frère Branham. Pourtant, il avait clairement spécifié ce qu'on n'a pas le droit de faire avec la parole, et cela s'applique aussi à ses prédications. Vous ne devez pas mal interpréter la parole, vous ne devez pas la placer au mauvais endroit, et vous ne devez pas la disjoindre. Christ est révélé dans sa propre parole, 22 août 1965, Indiana, États-Unis. Cela ne suffit pas de se référer uniquement aux citations. Une telle référence ne se justifie que lorsque les Écritures sont consultées en parallèle, et qu'on est capable de les placer respectivement dans l'ordre biblique, pas seulement avec un seul verset mais également avec tous ceux qui traitent du même sujet. Qu'en est-il des frères qui ne prêchent plus la Bible mais qui utilisent à la place les citations de frère Branham tirées de ses prédications, et qui ensuite font leurs propres commentaires? Même si frère Branham n'a pas toujours exprimé ou placé certains sujets en toute clarté, il ne peut y avoir de malentendu si nous trouvons notre orientation dans la parole. Le sujet du retour de Christ a particulièrement suscité un grand nombre de théories qui circulent. Lorsque les Écritures parlent de l'apparition du Seigneur, épiphanie, ou de sa venue, parousie, nous devons alors impérativement sonder et vérifier le contexte qui est en rapport avec l'événement mentionné. La toute première génération des vrais croyants s'attendait déjà au retour de Christ. Paul a écrit, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement, venu, de notre Seigneur Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5, 23. Il a aussi déclaré, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Alors suit une autre déclaration très importante qui nous fait savoir que l'événement lié à ce mystère n'est pas un processus long qui s'étend pendant des semaines, des mois ou même des années, mais qu'il s'accomplira en un instant, au moment même de l'avènement du Seigneur, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15, 35 à 58. Amen. Dans ce contexte, notre Seigneur a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement, venu, du Fils de l'homme. Matthieu 24, 27. Amen. Celui qui affirme que l'agneau de Dieu a déjà quitté le trône de la grâce et que Christ serait en train de descendre depuis l'ouverture des sceaux en mars 1963, est une personne ayant complètement perdu l'orientation spirituelle. L'agneau a pris le livre de la main de celui qui était assis sur le trône afin d'ouvrir les sept sceaux. Apocalypse 5, 7. Cela n'était nullement pour mettre fin au temps de la grâce. Par exemple, dans la prédication l'enlèvement, frère Branham se réfère à Matthieu 25, à 1 Thessaloniciens 4, et aussi à Jean 11, mais il faut soigneusement vérifier dans la Bible et savoir où placer le message, le précurseur qui retentit comme le cri d'appel au réveil pour ceux qui sont encore vivants dans notre temps, en l'occurrence dans Matthieu 25. Nous devons en plus distinguer, et placer correctement, le cri de commandement qui est en relation avec sa venue, tel que c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, 16. Version Darby, et 1 Corinthiens 15, 35 et 58. À première vue, il semblerait que frère Branham fit le lien entre le message et le cri de commandement. Ensuite il fut conduit par l'Esprit de Dieu à Matthieu 25, et il dit, il a prédit que ces choses arriveraient, et il doit les envoyer. La première chose qui vient, lorsqu'il commence à descendre du ciel, c'est un cri. Qu'est-ce que c'est? C'est un message destiné à rassembler les gens. Un message sort en premier. Maintenant, c'est le temps de nettoyer votre lampe. Levez-vous et préparez votre lampe. Matthieu 25. Après cela, frère Branham se référa de nouveau à 1 Thessaloniciens 4, au cri de commandement en rapport avec ceux qui sont morts avec Christ et qui vont ressusciter premièrement, et il fit ensuite un parallèle avec la voix forte que le Seigneur utilisa lorsqu'il appela Lazare de la tombe. Jean 11, 38 à 44. L'écriture dans Matthieu 25 ne s'applique qu'à ceux qui sont maintenant en vie, pas à ceux qui sont morts, pas à la résurrection, mais aux vierges sages et folles qui sortent pour aller à la rencontre de l'époux, en allemand Bräutigam, le fiancé, le futur marié. C'est ainsi que nous lisons au sujet du cri de minuit, voici l'époux, en allemand, le fiancé, le futur marié, allez à sa rencontre. Matthieu 25, 6. C'est cela le message de l'heure. Le dernier appel au travers duquel l'épouse, en allemand la fiancée, la future mariée, est préparée pour la venue de l'époux, en allemand, le fiancé, le futur marié. Dans 1 Thessaloniciens 4, 13, il est d'abord question de ceux qui sont morts en Christ et qui ressusciteront premièrement. Ensuite, l'apôtre Paul s'adresse avec vigueur à nous qui sommes en vie, par cette parole du Seigneur, nous les vivons, restez pour l'avènement. Venu, du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 15. Pourquoi? Parce que cela arrivera le même jour, au même moment. En ce jour-là, le Seigneur apparaîtra lui-même, ce ne sera pas un message. Il descendra avec un cri et les morts en Christ ressusciteront premièrement. En vérité, Je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Jean 5, 25. Après cela, ceux qui vivent en Christ seront changés et ensemble nous serons enlevés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Y a-t-il encore de la place pour une interprétation? Comment se peut-il que cette description si claire soit mal comprise? Il n'y a absolument aucune raison. Amen. Celui qui fait une différence entre apparition et avènement, venu, doit remarquer que les deux termes sont utilisés pour décrire un seul et même événement. Dans 2 Timothée 4, l'apôtre Paul a utilisé un troisième terme parce qu'il est question de différentes venues. Il parle de deux choses, premièrement de l'apparition du Seigneur en rapport avec son retour et deuxièmement de son royaume qui sera établi pour le règne du millénium. Au nom de son apparition et de son royaume. 2 Timothée 4, 1. Dans 2 Timothée 4, 8, l'apôtre se réfère de nouveau au jour du retour de Christ et parle de la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul ne désirait pas seulement être lui-même trouvé constant devant le Seigneur dans la prédication, mais il conjura son compagnon de service Timothée, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. 1 Timothée 6, 14. Ce verset est également adressé à tous les frères qui prêchent, en allemand, annoncer, proclamer, maintenant, avant la venue du Seigneur, le message biblique du temps de la fin, et qui prennent part à la distribution de la nourriture spirituelle tant convenable. Matthieu 24, 45 à 47. Il y a une énorme différence entre l'apparition du Seigneur dans la nuée surnaturelle le 28 février 1963 avant l'ouverture des sceaux, et le retour physique de notre Seigneur. À chaque fois que frère Branham priait pour les malades dans ses réunions, la lumière, la colonne de feu descendait. La présence surnaturelle de Dieu faisait partie de son ministère extraordinaire. Cependant, l'apparition corporelle de notre Seigneur sera une réalité lors de son retour. Acte 1, 11. Les Écritures suivantes parlent de ce grand événement. De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 9, 28. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1, 5 à 7. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. 1 Jean 2, 28. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. 1 Jean 3, 2. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24, 40 et 41. Importante mise au point. Quand frère Branham parlait des sept tonnerres, il se référait bien souvent à l'apparition de la nuée surnaturelle. Lors de cet événement, il entendit sept puissants coups de tonnerre qui retentirent l'un après l'autre. Pour bien démontrer cela, il frappa même avec son poing sept fois sur la chair. Ensuite, il dit qu'il leva les yeux et aperçut la nuée surnaturelle, laquelle était composée de sept anges formant une pyramide. Apocalypse 10, au contraire, parle des sept tonnerres qui feront entendre leur voix. Versets 3 et 4, seulement au moment où le Seigneur descendra comme l'ange de l'Alliance pour son peuple d'Israël. Prédication premier sceau. Les saintes écritures ne rendent témoignage d'aucune doctrine de tonnerre. Tout ce qui est lié au ministère de frère Branham doit être laissé à Dieu. Cela est aussi valable pour la comparaison avec le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste apporta son message et prépara le chemin du Seigneur mais il ne vécut pas assez longtemps pour voir s'accomplir la chose même qu'il avait prédite, à savoir la crucifixion de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le fait que sa vie s'achevât si brusquement, par décapitation, nous est incompréhensible. Néanmoins, nous savons qu'il avait achevé son ministère en accord avec le plan du salut. Il nous est de même difficile de comprendre pourquoi frère Branham fut repris dans la gloire de manière inattendue et soudaine suite à un accident de voiture. Malgré tout, son ministère s'accomplit et ainsi la sagesse de Dieu fut encore une fois justifiée. Dieu ne commet aucune erreur. Il lui fut dit le 11 juin 1933, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ. Le message qui t'a été donné sera le précurseur de la seconde venue de Christ. C'est donc bien le message qui lui a été confié qui est le précurseur de la seconde venue de Christ. Nous remercions notre Seigneur d'avoir préservé ce message qui a atteint les extrémités de la terre. L'apôtre Paul s'attendait à ce que certaines choses s'accomplissent déjà à son époque, notamment le retour de Christ, mais il partit dans la gloire sans voir leur accomplissement. Frère Branham également avait espéré voir s'accomplir durant sa vie certains événements particuliers. Le 5 octobre 1961, il dit la chose suivante. « Je crois que nous verrons bientôt une grande lumière apparaître et elle envahira toute la terre un de ces jours et ce sera pendant une courte période, peut-être seulement quelques mois. Mais je suis convaincu qu'une grande lumière viendra. » Question-réponse. Nous aussi nous croyons cela. Cependant, frère Branham n'a jamais dit que les morts en Christ ressusciteraient et resteraient parmi nous, 30 à 40 jours. Le 28 novembre 1965, il dit, « Pourquoi moi, un vieil homme, ayant souffert toute ma vie, pourquoi m'a-t-il guéri maintenant? Je crois que je vais encore me mettre en route car je dois apporter un message. Sur les ailes d'une colombe blanche. » À la fin de sa prédication sur le septième sceau le 24 mars 1963. Il pria ainsi, « Ensuite, Seigneur, je te prie de m'aider. Je deviens toujours plus faible, Seigneur, et je sais que mes jours sont comptés, c'est pourquoi je te prie de m'aider. Que je sois fidèle, Seigneur, honnête et sincère afin de pouvoir porter le message aussi loin qu'il m'a été ordonné de le porter. Et quand le temps sera venu pour moi d'entrer dans le repos, quand je descendrai vers la rivière où les vagues commenceront à m'emporter, ô mon Dieu, que je puisse remettre cette vieille épée à quelqu'un qui sera sincère à son égard, Seigneur, et qui portera la vérité. L'épée de l'Esprit c'est la parole de Dieu. » Éphésiens 6, 17. Dans sa prédication « L'Esprit de vérité » prêchée le 18 janvier 1963, frère Branham dit, « Cela pourrait être mon heure de retourner à la maison. Ça en a vraiment l'air. Si c'est le cas, alors quelqu'un se lèvera après moi et continuera à porter le message. Il sera une personne particulière mais il se lèvera après moi et continuera de l'avant avec le message. Et vous, écoutez ceci, tant que c'est scripturaire. Restez attachés à cela. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Le message qu'il apporte est à 100% en accord avec les saintes écritures. Amen. » Nous devons faire confiance à Dieu, et laisser ce qui doit se passer tout à la fin entre ses mains. Ésaïe 28, 21, « Car il achève et abrège l'affaire en justice, parce que le Seigneur fera une œuvre abrégée sur la terre. » Romains 9, 28. Donc, il n'y a pas besoin que le prophète revienne ou qu'un quelconque huitième messager apparaisse, Dieu seul achèvera son œuvre de la rédemption tout comme il acheva son œuvre de la création. Amen. Une rencontre déterminée d'avance. Depuis ma conversion en 1948 lors des réunions de l'église baptiste tenues sous une tente, et ensuite mon expérience du baptême du Saint-Esprit, qui eut lieu lors d'une conférence pentecôtiste en 1949, ma vie entière a été consacrée à mon Seigneur et Sauveur. En 1953, pendant la conférence pentecôtiste organisée à Cassel, Allemagne, par les communautés indépendantes du plein évangile, le frère responsable me demanda d'être l'orateur principal. Puis vinrent les réunions inoubliables de frère Branham à Karlsruhe, Allemagne, en août 1955 où je pus le rencontrer personnellement pour la première fois. Je vis que Dieu était avec lui car aucun homme ne pouvait faire les choses qui se passèrent là-bas. Et c'est ainsi que je voulus savoir ce qu'il croyait et enseignait. Ce fut la raison qui me poussa à entreprendre le voyage vers Dallas, au Texas, afin de prendre part à la convention de Voice of Healing en juin 1958. C'est à cette occasion que je remarquai la grande différence entre lui et les autres évangélistes, et je voulus entendre de sa bouche en quoi consistait son ministère. Pendant notre conversation, il me dit, « Frère Frank, j'ai un message que je dois apporter. » Et à la fin de cette conversation, je fus très surpris lorsqu'il me dit, « Frère Frank, tu retourneras en Allemagne avec ce message. » En ce temps-là, j'avais émigré au Canada et je n'avais aucune intention de retourner en Allemagne. Frère Branham me demanda de voir Léo Mercier, qui en ce temps-là était celui qui enregistrait ses prédications sur bandes magnétiques, afin que je puisse en prendre quelques-unes avec moi. J'ai encore ces bandes originales aujourd'hui. Les titres sont « Unis sous une seule tête, quand l'amour s'élance », « L'écriture sur la muraille », « Espérance et conduite » et « Les aigles de Dieu ». Depuis ce jour-là, chaque prédication de frère Branham me fut envoyée. En décembre 1958, je les avais traduites pour la première fois en allemand dans la petite assemblée que nous constituions à l'époque. Je connais très bien leur contenu, à cause de cela et de ma relation personnelle avec lui. Son mandat, son ministère et tout ce qu'il croyait et enseignait, me sont très familiers. Souvent, frère Branham répétait que chaque message que Dieu lui donnait pour l'Église serait prêché à Jeffersonville. Par conséquent, je traduisis premièrement tous les sermons qu'il avait prêchés dans son tabernacle. Plus tard, nous imprimâmes toutes les prédications qu'il avait apportées après l'ouverture des sceaux, sans tenir compte du lieu des réunions. Au cours des années, plusieurs centaines de prédications ont été ainsi traduites, en allemand, et je peux affirmer avoir mis à la disposition du peuple de Dieu la nourriture spirituelle dans son intégralité, et la mesure entière de la parole révélée. En 1962, frère Branham parla quatre fois des instructions qu'il reçut pour emmagasiner la nourriture. La même manière dont notre Seigneur parla des mystères du royaume de Dieu, en utilisant des représentations naturelles et des paraboles, se produisit avec frère Branham et moi, au sujet de la nourriture spirituelle. Le 1er avril 1962, frère Branham fit mention des différents légumes qu'il vit dans une vision et dans laquelle il lui fut dit d'emmagasiner de la nourriture dans le tabernacle. Ce n'est pas par pure coïncidence qu'au matin du 2 avril 1962, le Seigneur Dieu me dit d'emmagasiner de la nourriture, et mentionna également les mêmes sortes de légumes. Cela fut tout simplement une partie de son plan éternel du salut. Le Seigneur fit cette promesse dans sa parole, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amos 8, 11. Le temps est arrivé pour que les enfants de Dieu vivent de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4, Deutéronome 8, 3. Sans pour autant vouloir me comparer à Paul, je peux dire devant le Dieu Tout-Puissant que j'ai entendu la voix audible et pénétrante du Seigneur dans ma langue maternelle, lorsqu'il m'appela à son service et me donna ma commission, le 2 avril 1962. Comme la plupart le savent, frère Branham confirma cela par révélation divine le 3 décembre 1962, en présence de deux témoins, frère Wood et frère Sotman. Je ne demanderai à personne de me croire ou d'accepter le mandat que le Seigneur m'a donné. Cela n'est nullement nécessaire car, comme l'apôtre Paul disait, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Et pourtant, il pouvait avec confiance faire référence à son appel et au mandat direct qu'il avait entendu de ses propres oreilles dans sa langue maternelle, prononcé par le Seigneur lui-même. Actes 26, 13 à 16. Les paroles suivantes de notre Seigneur s'appliquent également dans ce cas, « en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Jean 13, 20. En même temps, nous voyons l'accomplissement de ce que Jésus avait dit, « Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. » La deuxième partie s'applique à tous ceux qui n'écoutent pas. « Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Jean 8, 47. Cela demeure éternellement inaliénable car une commission est une action de Dieu. Dieu ne commet aucune erreur et lui seul établit les ministères. 1 Corinthiens 12, 28, etc. « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Luc 10, 16. Ces paroles sont celles du Seigneur lui-même. L'écriture suivante se rapporte à ces véritables messagers. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. 1 Jean 4, 6. C'est l'appel divin qu'il me différencie de tous ceux à qui frère Branham aurait dit quelque chose. Jusqu'à ce jour, nul autre, que cela soit aux États-Unis, au Canada ou ailleurs sur la terre, peut rendre témoignage d'avoir reçu un appel et un mandat de la part du Seigneur lui-même. Aucun d'eux peut dire, « Voici ce que le Seigneur m'a dit avec une voix audible tel jour, à telle place, à tel moment. » Dans une harmonie parfaite que Dieu seul peut planifier et accomplir, j'ai apporté le message biblique du temps de la fin dans le monde entier depuis que frère Branham fut repris dans la gloire auprès du Seigneur. En fait, les frères aux États-Unis ne croyaient pas que l'enterrement aurait lieu le 11 avril 1966, car ils s'attendaient à ce que frère Branham ressuscite. J'étais le seul Européen à avoir assisté aux funérailles et j'ai entendu les chœurs, crois seulement, et sur les ailes d'une colombe blanche, être chanté pendant des heures et des heures jusqu'à ce que le cercueil fût finalement descendu dans la tombe. Si le Seigneur fidèle ne m'avait pas expressément parlé le soir du même jour, en me remémorant que le temps était arrivé de distribuer la nourriture qui avait été emmagasinée, je n'aurais pas rassemblé les frères à Jeffersonville, les jours suivants, le 12 et le 13 avril 1966, pour leur faire savoir ce qui devait se faire par la suite. J'insistais sur le fait que seules les prédications disponibles sur bande magnétique devaient être transcrites et imprimées afin qu'elles puissent être plus facilement traduites dans d'autres langues. Suite à ma proposition, cette tâche fut confiée au frère Roy Borders. Je dis ceci en toute humilité parce que Dieu l'a voulu ainsi. Si je n'avais pas été à la bonne place au bon moment, alors le monde entier n'aurait jamais entendu parler du message biblique du temps de la fin. Tous, même les frères dans le ministère, seraient rentrés chez eux, déçus, et toutes leurs espérances auraient été enterrées aux funérailles. Sans plus attendre, en 1966, j'organisais 25 réunions dans 5 pays de l'Europe de l'Ouest. Entre 1967 et 1968, je commençais les voyages vers les pays de l'Europe de l'Est. Ensuite l'Asie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et plus tard l'Afrique, et l'Amérique du Sud. Cela fut manifestement par la prévoyance de Dieu que déjà à la fin des années 50 et au début des années 60, j'avais pu établir des contacts dans les pays frontaliers à l'Allemagne. Lors de la convention à Dallas, au Texas, j'avais également pris quelques contacts avec certains des plus célèbres évangélistes des États-Unis. Ainsi j'ai pu entre 1959 et 1960 organiser la tournée européenne de l'évangéliste mondialement connu T.L. Osborne. À la fin 1965, j'avais prêché dans presque tous les pays de l'Europe de l'Ouest, y compris la Grande-Bretagne. Déjà en 1964, j'avais effectué mes premiers voyages en Israël, en Jordanie, et en Inde. Avec une profonde gratitude, nous pouvons regarder en arrière, à tout ce que Dieu a fait par sa grâce pendant ces 50 années. En août 2008, j'ai posé mes pieds sur le 140e pays, appelé Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Et là-bas j'ai aussi proclamé le message divin du salut. En accord avec l'ordre du Seigneur, j'ai exécuté mon mandat de deux manières, tout au long de ces années. J'ai été mensuellement en voyage missionnaire pour prêcher la parole. Et à partir du centre missionnaire, j'ai distribué la nourriture spirituelle qui avait été emmagasinée. Je suis convaincu que ma relation personnelle avec frère Branham avait une grande signification liée au plan du salut pour l'Église de Jésus-Christ au temps de la fin. Et c'est Dieu lui-même qui avait prévu cela dans son plan. En regardant en arrière, je peux voir la main protectrice du Tout-Puissant tout au long de ma vie, même pendant les épreuves les plus dures. Je sais que ce ministère est lié à un objectif éternel pour tous ceux qui font partie de l'Église épouse, comme cela fut le cas avec le ministère de frère Branham. Cependant, je tiens à insister sur le fait suivant. Une rencontre avec frère Branham n'est pas suffisante. La rencontre avec mon Seigneur et Rédempteur fut la chose essentielle. Si mon témoignage consistait uniquement en ce que le prophète m'avait dit sans inclure ce que le Seigneur m'a dit, cela aurait été fort déplorable et n'aurait aucun rapport avec le royaume de Dieu. Il n'est d'aucune utilité de répéter, le prophète m'a dit ceci ou cela, car ce qui compte pour Dieu c'est ce qui est lié à son plan du salut. conduite particulière. Les conduites spéciales et les expériences n'ont de l'importance que pour celui qui les a vécues. Après que Paul ait expérimenté sa conversion et reçu son appel et son mandat, le Dieu de vérité lui envoya son serviteur Ananias pour confirmer cet appel. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, et à entendre les paroles de sa bouche. » Acte 22, 14. Ce qu'Ananias dit à Paul n'avait aucune importance pour personne d'autre sur la terre. Et pareillement, plusieurs choses que frère Branham m'a dites n'ont de l'importance que pour moi personnellement. La première fois que je lui serrai la main, en août 1955, sans qu'il sache qui j'étais, il me dit, « Tu es un ministre de l'Évangile. » En décembre 1962, il me demanda même de prêcher à sa place à l'occasion d'une réunion des hommes d'affaires du plein Évangile organisée par Demos Chakarian à Los Angeles. Il me donna également des noms, des adresses et des numéros de téléphone des frères qui vivaient en Californie, aux États-Unis, et à Edmonton au Canada, des frères que je ne connaissais pas à l'époque, et cela afin que je prenne contact avec eux. Cela fut très important pour moi lorsque frère Branham me dit, « Frère Franck, il n'y a aucune malédiction sur l'Allemagne à cause des millions de Juifs qui furent massacrés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dieu ne jugera que ceux qui ont été coupables de ces actes et pas la nation entière. » Quand le monde a su ce qui s'était vraiment passé dans l'Holocauste, toutes les congrégations de croyants tinrent des réunions spéciales de prière, on pleura, on se repentit et on demanda à Dieu d'ôter la malédiction qui était tombée sur le peuple allemand. Malédiction qui, comme nous le pensions, était survenue suite à tout le mal infligé à son peuple Israël. Les paroles que frère Branham prononça, ne furent pas seulement la réponse dont j'avais besoin, mais elles ôtèrent un lourd fardeau de mon cœur. Ce fut une grande surprise lorsque soudain, il me dit sans que je lui posais la question, « Frère Franck, tu ne dois pas te faire du souci au sujet du voyage de Paul à Jérusalem, car c'était dans la volonté de Dieu. » Cela pesait dans mon esprit, parce que je ne pouvais tout simplement pas comprendre pourquoi l'apôtre Paul fit un vœu au temple, selon la loi judaïque et paya même pour sa purification, alors qu'il avait déjà expérimenté la grâce de Dieu et la prêchait. Acte 21. Je me demandais si j'avais également le droit de prier pour les malades, et je reçus une fois de plus ma réponse de frère Branham, « Frère Franck, le Seigneur t'a appelé pour prêcher sa parole. » Et toute personne appelée à prêcher l'Évangile est aussi appelée à prier pour les malades. Après cela, frère Branham pria pour moi. En rapport avec l'emmagasinage de la nourriture, il dit, « Frère Franck, la nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole promise pour ce jour, et elle est dans les prédications enregistrées sur les bandes magnétiques. » Ensuite il poursuivit, « Cela fut également d'une importance capitale pour moi. » Attends pour la distribution de la nourriture jusqu'à ce que tu reçoives le reste. Remarquez la manière précise avec laquelle Dieu parle et agit. Frère Branham reçut l'ordre d'emmagasiner la nourriture, mais il ne lui a jamais été dit de la distribuer. Tout est dans l'ordre divin. Quand j'ai su que frère Branham était décédé et que j'avais reçu sa dernière prédication du 12 décembre 1965, je sus que le temps était arrivé pour la distribution de la nourriture telle que le Seigneur m'avait ordonné de le faire le 2 avril 1962. En ce qui me concerne, je ne fais pas que mentionner tout ceci mais il s'agit du ainsi dit le Seigneur qui est lié à ce ministère prédestiné. Mon ministère fut prédéterminé à être directement connecté à celui de frère Branham. Le 24 décembre 1965, un peu après 23 heures, je vis frère Branham monter sur une nuée. Je n'avais pas compris cela en ce temps-là jusqu'à ce que plus tard, je compris que ce fut exactement à ce moment-là qu'il fut repris dans la gloire. De crainte que quelqu'un veuille pécher volontairement, je dois relever que nous aussi nous serons enlevés sur des nuées. 1 Thessaloniciens 4, 17. Les deux prophètes dans Apocalypse 11, vont pareillement monter au ciel dans une nuée. Verset 12. Il est écrit de notre Seigneur, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Actes 1, 9. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Apocalypse 1, 7. Pendant une réunion de prière le 31 décembre 1965, ces paroles me furent adressées par prophétie. Mon serviteur, j'ai placé mon épée dans ta main. De prime abord, Je ne pouvais pas comprendre cela car je savais que l'épée du roi avait été placée dans la main de frère Branham. Même si je l'avais vu monter au ciel, jusqu'à ce jour-là je ne savais toujours pas que frère Branham avait été repris auprès du Seigneur depuis le 24 décembre 1965. Quand le Seigneur m'avait dit « Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole », je n'avais pas idée de l'ampleur de ce mandat. Au début des années 70, le Seigneur me montra de nouveau l'importance de proclamer sa parole quand il me parla dans la ville de Marseille, France, en me disant « Lève-toi, et lis 2 Timothée 4 ». Ce qui ressort de cette recommandation, c'est que seul l'ainsi dit le Seigneur des choses écrites dans la parole de Dieu peuvent être prêchées. Par la même occasion, j'avais reçu la réponse sur les sept tonnerres. Ce qu'ont dit les voix des sept tonnerres d'Apocalypse 10 n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Par conséquent, cela ne peut pas et ne devra jamais être prêché. Toutes ces expériences ont pour moi une signification qui durera toujours et même plus encore, parce qu'elles sont directement liées au ministère le plus important, celui de la proclamation du message biblique du temps de la fin, qui maintenant va de l'avant comme précurseur de la seconde venue de Christ. Je suis très reconnaissant au Dieu Tout-Puissant pour toutes les expériences extraordinaires, pour tout ce qu'il m'a dit, et pour toutes les directives qu'il m'a données tout au long de ces années. Cette réalité demeure. Je dois prêcher et je ne prêcherai que la parole. Avec respect devant Dieu, nous acceptons le ministère unique de frère Branham. Il a prêché plus de 1000 sermons, dans lesquels l'ainsi dit le Seigneur fut prononcé 1615 fois. À chaque fois qu'il recevait une vision, l'ainsi dit le Seigneur était lié à cela. Jamais auparavant on n'a vu un tel ministère sur la terre, lequel ne peut être comparé qu'à celui du Fils de l'homme, Jésus-Christ. Jean 5, 19 et 20. Cela ne fut pas l'œuvre d'un homme, William Branham, mais l'action surnaturelle de Dieu au travers d'un vase humain, dans notre temps ici sur la terre, et je fus témoin de cela. Cependant, ce n'est pas le porteur de la parole qui est l'autorité, comme malheureusement frère Branham fut dépeint par certaines personnes, mais la parole elle-même est les deux, la semence et l'autorité divine. Frère Branham était le prophète promis, il a effectué son ministère et révélé tous les mystères de la parole, de la Genèse à l'Apocalypse. Il proclama de nouveau les enseignements bibliques et il n'alla jamais au-delà de la parole de Dieu. Il accepta la parole comme autorité suprême pour tout ce qui est de la doctrine et de la foi. Bien souvent, il leva sa Bible en déclarant, « Ceci est mon absolu. » Néanmoins, frère Branham, tout comme nous, était un être humain. Il n'était pas seulement un prophète mais également un évangéliste et un prédicateur. Par exemple, le 7 août 1962, il exprima le désir de son cœur en ces mots, « J'attends ce grand moment où j'irai en Israël pour leur apporter l'évangile. » Le super signe. Après qu'il soit arrivé au Caire, le Seigneur eut à le reprendre en lui disant que le temps pour Israël n'était pas encore arrivé. Selon Zacharie 4 et Apocalypse 11, deux prophètes apparaîtront à Jérusalem au temps de Dieu. Je sais aussi ce qu'il a dit sur les sept tonnerres, sur le troisième poule, sur l'année 1977, sur les 70 semaines de Daniel, sur la vision de l'attente, sur le septième sceau, etc. Mais aucun de ces sujets n'aurait apporté une quelconque confusion si des frères n'avaient pas fait sortir certaines citations en dehors de leur contexte, en les utilisant de travers afin de mettre en place leur propre doctrine. Je veux réitérer ceci une fois de plus. Seulement ce qui est écrit dans la Bible peut être appelé biblique et ce n'est que lorsqu'il y a une promesse dans la parole de Dieu que celle-ci pourra s'accomplir. Même à frère Branham, qui eut un ministère prophétique extraordinaire et infaillible, on doit concéder le droit, qu'en tant qu'être humain, il exprima ses attentes et ses espoirs. Par exemple, l'apôtre Paul exprima aussi son opinion dans 1 Corinthiens 7, 8 et 9. À ceux qui ne sont pas mariés, et aux veuves, je dis. Au verset 10 et 11, il mit l'accent sur le « Ainsi dit le Seigneur, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. » Et au verset 12, de nouveau, en parlant, en tant qu'homme, Paul donne quelques bons conseils, aux autres, « Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. » Dieu a permis que des choses difficiles à saisir soient dites, mais il nous en a aussi accordé la compréhension. Amen. Qu'aucun homme ne soit glorifié ou déifié, et ainsi ne soit considéré comme étant infaillible. C'est de cette manière que l'idolâtrie commence. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Lui seul et sa parole demeure infaillible pour toute l'éternité. Par la grâce de Dieu, il n'y a aucune déclaration de frère Branham que j'ai mal comprise, ni aucun des différents passages difficiles de la Bible. Dans tout cela, je ne vois qu'une harmonie divine. Celui qui suscite des espérances sans fondement tiré des diverses déclarations de frère Branham au point même d'espérer son retour, se détourne du retour de Jésus-Christ, passe à côté de ce que Dieu est en train de faire, et malheureusement entraîne d'autres croyants dans l'égarement. La parole exclut les interprétations et les interprétations réfutent la parole. De même que la lumière est séparée des ténèbres, ainsi la vérité est séparée de l'erreur. Celui qui croit la parole de vérité, rejette le mensonge. Celui qui croit le mensonge s'oppose à la parole de vérité. À tous ceux qui ne peuvent accepter la vérité, même les prédicateurs, Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, 10 à 12. Une décision personnelle pour la vérité ne doit plus être remise à plus tard, autrement, cela pourrait vite devenir trop tard pour toujours. 2 Semences différentes. Au cours de l'histoire, plusieurs choses incompréhensibles pour nous se sont passées. Cela commença dans le paradis et se poursuivit jusqu'à présent. Nous savons que chaque semence se reproduit selon son espèce. Genèse 1, 12. Après qu'Ève eut admis avoir été séduite par le serpent. Genèse 3, 13. Dieu maudit le serpent, et depuis, il dut marcher sur son ventre. Verset 14. Ensuite Dieu mit inimitié entre le serpent et Ève, entre sa semence et la semence de la femme. Verset 15. La Bible mentionne le mot semence, ou postérité, 213 fois pour désigner les descendants dans la chair. Tout lecteur de la Bible reconnaîtra clairement dans ce contexte, même si cela est en parabole, que Caïn fut le résultat de la séduction. Puis Adam connut sa femme. Elle enfanta Caïn, et elle enfanta encore son frère, Abel. Genèse 4, 1 et 2, Darby. C'est pour cette raison que les saintes écritures ne citent nulle part Caïn comme étant le fils d'Adam, et n'identifient aucune fois Adam comme étant le père de Caïn. C'est aussi pour cela que Caïn n'est même pas mentionné une seule fois dans les généalogies, que ce soit dans Genèse 4, 1 à 7, dans 1 Chronique 1, 1 à 5, ou dans Luc 3, 37 et 38, quoiqu'il eût des descendants. L'apôtre Jean l'a stipulé clairement pour nous tous. Caïn, qui était du malin. 1 Jean 3, 12. Tous ceux qui lisent la Bible savent que Christ, le Rédempteur, était la semence promise. Genèse 3, 15, Galates 3, 16, etc., qui devait naître dans ce monde au travers d'une femme. Satan s'empara du serpent, séduisit la femme d'Adam et s'introduisit subrepticement dans la race humaine par l'engendrement charnel. Dieu avait choisi Marie, la Vierge qui dit à l'ange Gabriel, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Luc 1, 34. Comme son vase par lequel il pouvait entrer dans l'espèce humaine en engendrant son Fils par le Saint-Esprit. Verset 35. Afin qu'il puisse nous racheter et nous faire sortir de la chute. Romains 8, 3. David s'écria en nom à tous, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Psaume 51, 5. Puisque nous sommes tous nés dans le péché originel, nous devons naître de nouveau par le Saint-Esprit. Jean 3, 1 à 8, etc. Autrement nous ne pouvons voir le royaume de Dieu. Nous sommes nés dans ce monde par la procréation naturelle, mais en naissant de l'Esprit, nous sommes placés dans le royaume de Dieu et nous recevons la vie éternelle. Depuis le commencement, il a toujours existé deux semences différentes sur le plan spirituel. Matthieu 13, 24 à 43. Le Seigneur sème la parole, et l'ennemi sème l'interprétation. Aussi dans notre temps, la pure parole a été semée, mais très vite l'ennemi s'introduisit furtivement dans l'église du temps de la fin, et il sema la semence de discorde. Frère Branham vit dans une vision que l'église des États-Unis était conduite par une sorcière, et fit la comparaison avec la séduction du Conseil mondial des églises. Il vit encore comment l'épouse en Europe était sortie du pas, mais elle fut finalement ramenée au pas. Le chef-d'œuvre, 5 juillet 1964. Dieu doit nous révéler quand et comment cette vision s'accomplit. Au sujet de la semence spirituelle, Nous nous référons au témoignage des évangiles. Dans Marc 4, 14, le Seigneur dit, le semeur sème la parole. Et dans Luc 8, 11, il en donne l'explication. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Selon Matthieu 13, le Seigneur en tant que fils de l'homme a semé la bonne semence. Et cette semence se manifeste en tous ceux qui l'ont reçue par la foi. Verset 23. Ensuite nous lisons. Il répondit. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Versets 37 et 38. Seul celui qui accepte par la foi la semence incorruptible de la parole de Dieu dans un cœur bon et sincère, pourra alors naître de nouveau. 1 Pierre 1, 23, Jacques 1, 18, etc. Et porter du fruit avec persévérance. Luc 8, 15. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Marc 4, 28. Et pourtant survint quelque chose de dramatique, comme notre Seigneur le déclare dans le même chapitre. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Matthieu 13, 25. Dans Matthieu 25, 5, nous lisons ce qui arrive dans la dernière phase, comme l'époux, Bräutigam en allemand, le fiancé, le futur marié, tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Depuis le commencement du ministère de frère Branham, un puissant cri d'appel au réveil s'est enclenché. Les vierges folles et les vierges sages prirent leurs lampes et se mirent en marche pour aller à la rencontre de l'époux, le fiancé, futur marié, en allemand. Comme l'époux, le fiancé, le futur marié, retardait sa venue, toutes s'endormirent. Nous n'avions pas pris garde à l'avertissement, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41. L'ennemi saisit l'occasion pendant ce temps pour égarer, pour séduire. 2 Corinthiens 11, 3, et pour semer sa propre semence. L'ennemi avait l'intention de détruire pour toujours l'objectif même du message biblique du temps de la fin en faisant perdre toute crédibilité aux porteurs de ce message. Bien qu'il n'ait pas réussi, plusieurs ont tout de même succombé à l'influence du malin, et la semence de discorde, contradiction ou opposition, en allemand, comme frère Branham l'a appelé, est apparu. En anglais, discrepancy signifie un manque de similarité ou de compatibilité, une contradiction, un conflit, un désaccord. L'Éternel s'adressant au prophète Jérémie dit, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Jérémie 1, 19. Considérons ce qu'ils ont fait à notre Seigneur. Lui qui était la personnification de la parole, la calomnie et l'hostilité qu'il a dû endurer de sa naissance à sa mort sur la croix. Il fut désigné comme étant né hors mariage, imposteur, Béelzébul, possédé, séducteur, etc. Les prophètes et les apôtres, les porteurs de la parole, furent également persécutés, ils furent même lapidés et mis à mort, comme notre Seigneur l'avait annoncé d'avance. Matthieu 23, 34. Néanmoins, la parole qu'ils nous ont laissée est jusqu'à ce jour vivante et elle accomplit encore ce pourquoi elle a été envoyée. Ésaïe 55, 11. Malheureusement, les deux semences sont dans le même champ, elles reçoivent la même pluie. Matthieu 5, 45, et semblent bénéficier des mêmes bénédictions. Hébreux 6, elles croissent l'une à côté de l'autre jusqu'au temps de la moisson. Matthieu 13, 30. Dans la prédication, les oints du temps de la fin, frère Branham, avec le, ainsi dit le Seigneur, met encore plus l'accent dans sa déclaration, ceux qui sont oints, les faux Christ et les faux prophètes, ont reçu la même onction du Saint-Esprit. Il parla des trois cercles, corps, esprit et âme, et dit, vous pouvez être oint dans la seconde sphère avec l'authentique Saint-Esprit sans pour autant que votre âme soit sauvée et née de nouveau. Cela nous est clairement montré dans Matthieu 7, 21 et 24. Quand les oints, porteurs de dons, paraîtront devant le Seigneur et devront faire face à ses paroles. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voici la marque distinctive que nous devons observer, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons. Matthieu 7, 16. Il n'est nullement écrit qu'on les reconnaîtra par leurs dons. Un enfant de Dieu ne peut jamais avoir une nature satanique et un enfant du diable ne peut avoir la nature divine. Cette parole demeure vraie pour toujours. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 3, 15. Rappelons-nous de l'exemple de Caïn et Abel. Dans la vie des enfants de Dieu, la nature de Jésus-Christ est manifestée dans l'amour divin avec toutes ses vertus. 2 Pierre 1, comme cela est aussi décrit dans 1 Corinthiens 13. De cette manière, chacun peut s'examiner lui-même et constater si un renouvellement total et une transformation a eu lieu dans sa vie, s'il s'est revêtu de la nature de Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Un enfant de Dieu s'examinera toujours par rapport à la parole. Celui qui porte la semence divine dans son cœur et dans sa vie, ne jugera jamais les autres et ne manifestera jamais la nature de l'ennemi, l'accusateur des frères. Cette écriture sera toujours valable, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 33 à 39. Amen. L'Église, scène de la bataille spirituelle. Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. Le Seigneur a racheté son Église, et il l'a bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2, 20. Il a révélé son secret au sujet de l'Église à ses saints apôtres et prophètes. Éphésiens 3, 4. Tout comme le peuple d'Israël et la ville de Jérusalem furent exposés à maintes reprises à la furie destructive de leurs ennemis, ainsi en est-il avec l'Église des nations, qui est fondée sur la parole apostolique sortie de Jérusalem. La ville de Jérusalem fut détruite 19 fois, et les Juifs furent dispersés dans le monde entier. Ils ont été persécutés et massacrés, de même la terre est trempée du sang des martyrs de Christ. Apocalypse 17, 6. Eu égard à la situation à l'intérieur de l'Église, l'apôtre Paul avertit les anciens par ces paroles. Prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, ou surveillant, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Actes 20, 27 à 30. Il vit d'avance que les loups s'introduiraient parmi eux et n'épargneraient pas le troupeau, et qu'il s'élèverait du milieu d'eux des hommes qui enseigneraient des doctrines pernicieuses. Les deux choses arrivent, persécution venant de l'extérieur et séduction de l'intérieur. Nous avons déjà ressenti en diverses occasions un avant-goût de la pression et de la persécution religieuse qui doit venir. Quant à la séduction, nous l'avons expérimentée en 1979, lorsque Satan essaya avec toutes les forces de l'enfer de détruire l'assemblée locale, l'endroit d'où la parole est prêchée pour atteindre le monde entier. Les bénédictions puissantes que nous avions expérimentées ici étaient presque comparables à celles de l'Église du commencement. La proclamation de la parole et l'opération de dons spirituels étaient en pleine harmonie. Nous avons souvent entendu, ainsi dit le Seigneur. Et il en était toujours ainsi. Il y avait presque une atmosphère paradisiaque dans nos réunions et nous nous attendions au retour imminent du Seigneur. Pendant ce temps béni jusqu'à Pâques 1976, des prophéties pour l'édification et la consolation furent apportées. Par exemple, voici ainsi dit le Seigneur. Mes saints, mon épouse, en allemand, Braut, la fiancée, la future mariée, rassemblée en cet endroit où j'ai mis mon sanctuaire. Voici ainsi dit le Seigneur, mon peuple, j'ai choisi cet endroit pour être mon sanctuaire. Voici ainsi dit le Seigneur, mon peuple. Oh, si tes yeux pouvaient s'ouvrir et voir l'arc de mon alliance que j'ai étendu en cet endroit. Aussi dans la colonne de feu, je suis ici et je me tiens sur cette plateforme. Je suis avec vous. Mais par la suite l'ennemi s'immissa, envoûta et séduisit. Lors de la réunion du 5 juin 1976, je fus contraint par une prophétie d'établir dans le ministère un frère et sa femme qui avaient été cités par leur nom. Après cela, le ainsi dit le Seigneur était fréquemment prononcé, mais cette fois sous la mauvaise inspiration, par l'influence du serpent, comme cela a été révélé plus tard. Cela continua jusqu'à ce samedi matin du mois de novembre 1978, lorsque le Seigneur me recommanda d'une voix audible, Mon serviteur, lis le livre des Actes et cherche s'il y a un endroit où un homme et sa femme furent tous deux établis dans le ministère. C'est alors que je compris que cette prophétie, parmi les autres, avait été contraire aux saintes Écritures. Chacun de nous tous, y compris les frères dans le ministère, étions tellement impressionnés par les moments bénis et merveilleux que nous vivions, que nous n'avions pas considéré l'éventualité que l'ennemi, pour accomplir son œuvre destructrice, pourrait se glisser sous le couvert de la piété, puis de manière astucieuse abuser des mêmes lèvres qui auparavant transmettaient les directives de la part du Seigneur. En plus de cette sœur qui avait des dons spirituels, une soi-disant prophétesse de Berlin et deux frères bien considérés n'appartenant pas à notre assemblée locale, furent impliqués. La sentence de cette machination destructrice ainsi que ses conséquences telles que la diffamation, la haine et l'inimitié qui ont détruit des mariages, des familles entières et même des assemblées, sera prononcée au jugement dernier. Cette même sœur quitta l'assemblée, prit les prophéties qui étaient sorties de sa bouche et qui avaient été consignées par écrit. Il y en avait plus de 40, les déchira devant mes yeux et les jeta dans la poubelle. Des paroles sans retenue furent exprimées, telles que, « Je dois te détruire. Je dois détruire ton œuvre. Si je reste avec toi, je ne pourrai le faire. » C'était l'influence directe de l'ennemi, qui séduisit une femme afin qu'elle se sépare de son mari et qu'elle engage un avocat spécialisé dans les divorces. Après cet acte de destruction, des paroles inconcevables furent proférées par la même bouche, au point de déclarer « Plus jamais je n'entrerai dans ce bâtiment, même s'il arrivait qu'un mort y ressuscite. » La conséquence de tout cela, c'est que tous ceux qui ajoutèrent foi à cette voix se laissèrent entraîner dans cette révolte, se séparèrent de l'assemblée, continuent à marcher dans leur propre voie et sont devenus des dénigreurs. Acte 13, 41. L'ennemi s'infiltra dans le troupeau pour frapper le berger afin de disperser les brebis. Cela se répercuta dans le monde entier, et eut pour conséquence que des frères dans le ministère devinrent les proies de cette influence perverse. Ce qui explique pourquoi ils propagent des doctrines pernicieuses et participent à la diffamation de celui qui apporte la vraie parole de Dieu. En dépit de tout cela, cette parole demeure vraie pour toute l'éternité. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre la vraie Église. Maintenant commence une nouvelle phase. La puissance de résurrection de notre Seigneur sera manifestée parmi les siens. Ce qui arriva dans le jardin d'Éden, dans le domaine naturel, sous l'influence du malin, apporta la mort naturelle. De même, ce qui arriva ici dans le domaine spirituel, que Dieu ait pitié, provoqua la mort de plusieurs âmes précieuses. Néanmoins, si l'œuvre de destruction n'avait pas eu lieu, Satan en tant qu'ange de lumière aurait continué sa séduction et les deux différentes semences ne se seraient jamais manifestées. Dieu permit la séduction dans le jardin d'Éden et dans ce lieu, afin de mettre fin au mélange. Cependant, nous pourrons être capables de placer cela correctement que si nous lisons une fois encore la prédication de frère Branham mariage et divorce, et comprenons pourquoi il a dû retourner au commencement, à la séduction d'Ève, ce qui en résulta, et pourquoi il dut le confirmer avec le « Ainsi dit le Seigneur ». Nous sommes pleins d'assurance sachant que l'époux, en allemand, fiancé ou futur marié, céleste appellera à sortir son épouse, en allemand, sa fiancée, future mariée, terrestre, et qu'il achèvera sa préparation. Dieu savait comment il allait exécuter son plan du salut après ce qui arriva dans le jardin d'Éden. Il sait aussi pourquoi il permit tout ce qui se déroula ici. Cela fut certainement une partie de son plan parfait du salut pour le temps de la fin. Manifestement, Satan se tient devant l'Église, comme cela est prédit dans la dernière phase avant l'enlèvement. Apocalypse 12. Au début, il réussit son objectif, jeter l'opprobre et le mépris sur le messager et le message, car il lui fut apparemment permis de cribler l'Église épouse, en allemand, Braut et Gemeinde, l'assemblée fiancée. Néanmoins, nous sommes certains que le bon grain reste dans le crible. La balle seule sera dispersée à tout vent de doctrine. Tout ce qui est arrivé depuis le commencement du temps est indubitablement inclus dans le plan de Dieu. Et maintenant à la fin, il va détruire les œuvres de l'ennemi, et même bientôt écraser Satan sous nos pieds. Romains 16, 20. Il va victorieusement achever son œuvre de la rédemption pour le jour du retour de Christ. Jésus est le vainqueur et notre foi est la victoire qui triomphe du monde. 1 Jean 5, 4. C'est pour cela que nous nous attendons, dans une grande clarté et dans la vérité, à la conclusion prochaine de son action finale, laquelle sera le couronnement suprême du plan du salut. Par la grâce de Dieu, tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse, en allemand, Brautgemeinde, l'assemblée fiancée, prêteront leurs oreilles seulement à la voix de l'époux, en allemand, le fiancé, le futur marié. Ils seront ramenés au pas, et pourront ainsi expérimenter leur achèvement. À la fin, une récompense céleste attend les élus parce qu'ils auront suivi le Seigneur dans toutes les circonstances. À partir de maintenant, nous ne regardons plus en arrière, mais nous disons comme Paul dans son épître aux Philippiens. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, 13 et 14. Avec action de grâce, je peux attester comme l'apôtre Paul, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi, et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. 2 Timothée 4, 17. Toute une vie à son service. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Jean 9, 4. Je suis très reconnaissant, envers mon bien-aimé Seigneur, de m'avoir accordé le privilège d'être à son service pendant plus d'un demi-siècle, ce qui n'a été accordé à aucun homme de Dieu pendant ces derniers 2000 ans. Depuis le début, je pouvais exercer mon ministère en 3 langues. Je me sentais comme à la maison aussi bien dans les pays de l'Europe de l'Est, de l'Europe de l'Ouest, que dans le monde entier. Dans ces dernières 50 années, j'ai prêché plus de 10 000 sermons. Ajoutez à cela, il y a eu d'innombrables émissions de radio et de télévision, lesquelles aujourd'hui encore sont diffusées en allemand, en anglais et en russe dans différents pays. À aucun moment, je n'ai pris avec moi sur la chair une prédication préparée d'avance en forme de texte. Je n'ai utilisé que la Bible, et le Seigneur bienveillant a toujours accordé son inspiration et placé ses paroles dans mon cœur et dans ma bouche. J'ai moi-même traduit en allemand les prédications de frère Branham en format texte et audio. Au fil des années, j'ai aussi publié 20 de mes propres brochures, dans lesquelles j'ai traité des sujets bibliques les plus importants. Elles furent d'abord imprimées en allemand, puis en anglais et plus tard dans d'autres langues. En plus de cela, il y a eu des livres, et plusieurs lettres circulaires, répondant à un grand nombre de questions bibliques. J'ai pu consacrer tout mon temps, les journées, et bien souvent jusque tard dans la nuit, à son service, car je ne voulais pas perdre un seul instant. Avec une bonne conscience, je peux dire que j'ai fait bon usage de mon temps avant que la nuit vienne où personne ne pourra plus travailler. Dieu m'a aussi accordé sa grâce pour que je continue à effectuer mensuellement mes voyages missionnaires. J'ai visité certains pays plus de 20 ou 30 fois. Depuis 1968, sans faillir une seule fois, j'ai pu chaque dernier dimanche du mois tenir des réunions à Zurich, et plusieurs fois dans l'année à Salzbourg en Autriche. Ici à Krefeld, en Allemagne, nous tenons depuis plusieurs années des réunions internationales chaque premier week-end du mois. Des frères et sœurs de plusieurs pays y prennent part. C'est pourquoi nous sommes très reconnaissants pour les édifices du centre missionnaire que nous avons construit sous l'ordre direct du Seigneur afin de loger tous les visiteurs pendant ces week-ends. Sur la photo, la peau de zèbre qui est derrière moi représente pour moi un souvenir spécial. Cela fut en 1978, au temps où frère Sidney Jackson et moi avions une fois tenu des réunions dans toutes les grandes villes de l'Afrique du Sud. À Pretoria, il m'introduisit devant une foule d'à peu près 600 personnes, rassemblées pour entendre la parole de Dieu. Il leur dit, « Je crois que frère Frank est un apôtre envoyé par le Seigneur. » Juste après cela, une fois dans sa maison, il me montra la peau de zèbre sur le sol, et me dit, « Frère Branham s'était tenu sur cette peau avec nous, en 1965, lorsqu'il pria pour l'Afrique. Il était triste parce qu'il ne lui avait pas été permis de prêcher dans notre pays. » Mais nous voyons maintenant que Dieu a pris soin de cela et le message est venu en Afrique. Il doit avoir été le premier à me rappeler que frère Branham avait vu un aigle allemand survolant l'Afrique. Ensuite il m'offrit cette peau de zèbre, qui, depuis lors, est accrochée sur le mur de mon salon. Photo. Sur cette photo prise en juin 2008, Frère Frank montre les cinq bandes magnétiques qui lui furent données en juin 1958. Sur le continent africain, Dieu a sauvé pas seulement des milliers d'âmes mais des centaines de milliers, et les a conduites à la connaissance de la vérité. Je n'oublierai jamais le jour où dans un stade, où étaient rassemblées plus de 20 000 personnes, cela est aussi arrivé dans d'autres villes, je posais la question suivante. Combien d'entre vous croient au message et sont baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ? Des milliers de mains se levèrent, et de la foule résonna un puissant « Amen ». Si je voulais relater toutes les conduites, les directives et les nombreuses expériences que Dieu m'a accordées, cela remplirait plus d'un livre. Ayant toujours confiance que le Seigneur veille sur son œuvre, je n'ai jamais récolté des offrandes ou collecté des dons pour un quelconque programme. Je n'ai jamais sollicité de l'argent. Depuis le début, il a toujours pourvu pour toutes choses, pour le terrain, la construction de l'église et les bâtiments du centre missionnaire, pour l'achat de l'équipement de l'imprimerie, la salle d'enregistrement, le studio de télévision, et pour tout ce dont on a besoin pour l'envoi des cassettes et de la littérature. En fait, le Seigneur a fait en sorte que nous ayons toujours tout ce dont nous avons besoin pour l'exécution de cette œuvre missionnaire. Qui aurait pensé il y a 10 ans que l'on aurait la possibilité de transmettre nos réunions en direct par Internet? Dieu seul avait vu cela, et fit en sorte qu'il y ait des frères parmi nous qui parlent plus d'une langue, de façon que l'on puisse avoir la traduction simultanée des prédications en 12 langues, dont 10 peuvent être entendues dans le monde entier par Internet. Dieu a pris soin de nous d'une manière merveilleuse dans tous les domaines, même pour que nous ayons une chorale et des instrumentalistes. Je suis très reconnaissant pour les anciens et tous les frères qui ont respectueusement servi, chacun à sa place, à mes côtés pendant toutes ces années. Cette œuvre missionnaire est exécutée dans la volonté directe de Dieu et elle est unique dans tous les aspects. Pour ma première lettre circulaire en 1966, j'avais choisi le titre « La parole de Dieu demeure éternellement » et je conclus depuis lors par cette phrase « Agissant de la part de Dieu ». Je ne nierai jamais mon appel, et Dieu ne s'en repentira pas. C'est mon souhait non seulement de servir le Seigneur, mais d'être trouvé dans la parfaite volonté de Dieu jusqu'à la fin. Je sais que dans l'éternité cela aura valu la peine d'avoir exécuté son mandat dans toutes les circonstances comme le fit l'apôtre Paul en son temps. Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Tite 1:1-3. L'expérience que j'eus en janvier 1981 aura toujours une valeur particulière pour moi. En cette occasion, je fus ravi en dehors de mon corps et je vis et expérimentai l'enlèvement. Je regardai à la multitude, tous étaient vêtus de blanc, tous étaient jeunes. Job 33:25. J'ai vu comment la nouvelle Jérusalem descendait. Et j'ai vu l'épouse, en allemand, la fiancée, la future mariée, s'élever vers elle. En fin de compte, le chemin déplorable par lequel nous devions passer aura servi à atteindre l'objectif divin, et accomplir le but de la purification et de la séparation totale. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Daniel 12:10. Nous nous trouvons dans la dernière étape du chemin. Le choix est donné à tous les frères et sœurs de décider s'ils veulent appartenir à l'Église égarée, ou à l'Église restaurée. Chacun doit décider pour lui-même et reconnaître la place que les Saintes Écritures lui attribuent. Chacun se tiendra devant le Seigneur avec la décision qu'il prend maintenant. Qui croira à Dieu et se tiendra à son côté? En conclusion, je veux remercier tous mes bien-aimés frères et sœurs, vous qui quotidiennement priez pour moi. J'exprime également ma gratitude envers tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, selon leur capacité et sans relâche, participent à l'œuvre missionnaire dans d'autres endroits du pays et à l'étranger. Pareillement, je remercie tous les frères et sœurs qui ont fidèlement soutenu, tout au long de ces années, cette œuvre de Dieu par leurs dîmes et offrandes. À tous les frères dans le ministère qui proclament la parole de Dieu dans différents pays, je voudrais transmettre ces paroles d'encouragement écrites dans 1 Corinthiens 15:58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck. L'esprit et la fiancée, ou futur marié, disent « viens », et que celui qui entend dise « viens ». Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Photo. Une photo de la Conférence internationale des ministres en avril 1976. Des frères de 33 pays y prirent part. Tout au long de ces 50 années, nous avons gardé des souvenirs précieux des nombreuses réunions qui ont eu lieu dans le monde entier. En 1979, j'avais déjà visité 86 pays. Aujourd'hui, ce nombre est passé à 140. Satan a voulu empêcher l'appel à sortir des derniers qui doivent compléter le nombre total. Mais Dieu, par Christ, n'a pas seulement triomphé sur toutes les puissances de Satan à la croix du calvaire. Il nous donne aussi la victoire aujourd'hui. Dans tous les pays, les gens se rassemblent pour entendre la parole de Dieu. C'est littéralement l'accomplissement de la prophétie biblique. Dieu a envoyé une famine d'entendre sa parole, et la nourriture spirituelle est distribuée au temps convenable. Nous voyons aussi l'accomplissement de ce que le Seigneur me dit le 28 décembre. Mon serviteur, rassemble-moi mon peuple, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Psaume 50, 5. Tous ceux qui font partie de la nouvelle alliance se rassemblent maintenant dans différents endroits, dans tous les pays pour entendre la parole de Dieu. Dans les années 60 et 70, il y avait à peu près 400 personnes qui se rassemblaient ici au centre missionnaire. Maintenant, il arrive souvent qu'il y ait plus de 800 personnes rassemblées dans une seule réunion. Dieu veille encore sur son plan et toutes choses lui sont soumises. Amen. Photo. Une réunion au centre missionnaire de Krefeld en novembre 2008. Une réunion à Heilbronn, Allemagne, le samedi de Pâques en 1975. Une réunion à Zurich, Suisse, le dimanche de Pâques en 1975. Depuis 1966, des milliers de frères et sœurs ont été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Une réunion à Belém, Brésil, en octobre 2007. Une réunion à Lima, Pérou, en octobre 2007. Une réunion à Manille, Philippines, en septembre 2008.